Alors imaginez-vous qu'étant été baptisé, il sort de l'eau, il va dans la cave, puis on lui dit dépêche-toi, dépêche-toi. Alors il était tout content, il était tout joyeux, il vient d'être baptisé. On dit mais dépêche-toi, dépêche-toi, habille-toi. Puis quand il était habillé, il dit viens-en. Mais oui. Mais il dit il faut aller à 100 fois parce que ton magasin est en feu. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit en allant 100 fois? Si les magasins peuvent partir, ce sont les choses temporaires. Ce qui vraiment importe, c'est que je suis sauvé. Ce qui vraiment importe. Je ne sais pas combien de personnes que nous sommes ici ce soir. Mais chacun d'entre vous, vous êtes une histoire de la grâce de Dieu. Ça ferait des chapitres dans un livre, hein? Je me rappelle quand je suis entré chez les Blancs pour la première fois. Ils ne savaient pas que j'étais pasteur. Ils m'ont dit après qu'ici on aurait su. Ils ne m'auraient pas laissé entrer. Mais ils n'avaient pas le choix. Quelqu'un m'a amené chez eux. Et quand j'étais bien assis autour de la table, après il a dit c'est un pasteur. N'est-ce pas, Madame Les Blancs? Oh. Le Seigneur a fait des grandes choses. Nous pouvons le louer pour ça. Mais dès le début, une chose était très évidente. La chose qui était évidente, c'est que nous étions sur le terrain de l'adversaire. Et parfois, on ne pouvait pas voir, mais on pouvait presque sentir. C'était comme tangible la puissance de l'ennemi. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les saints. Mais contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. C'est devenu tellement évident que nous avons commencé à chercher un autre endroit, que nous avons commencé à travailler pour construire une chapelle. Tout d'abord, le terrain qui était à vendre, pour la majorité, appartenait à l'Église de Rome. Et ce qui n'appartenait pas à l'église de Rome et qui était à vendre, la ville ne voulait pas nous donner un permis de construire. Alors finalement, nous avons abouti ici. Le Seigneur savait pourquoi. Il n'y avait pas encore l'autoroute à ce moment-là. C'était presque dans un cul-de-sac. Hein? Nous avons acheté ici. La manière que nous avons acheté les terrains, nous l'avons payé cash. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore ce qui était ici. On avait 20 000 dollars dans notre caisse, puis ça prenait 55 000 dollars. Puis il y avait des personnes qui se sont dit, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on achète le terrain. Nous avons dit, nous allons savoir si c'est la volonté du Seigneur d'acheter le terrain, si nous pouvons l'acheter et payer cash. Quand nous avons eu 6 semaines, un petit groupe de personnes. 6 semaines plus tard, il y avait 57 000 dollars dans notre caisse. Quand nous sommes allés chez les notaires, nous avons donné à Darvaux et Petit-Clair 55 000 dollars cash. C'était une conviction. Les groupes qui étaient là étaient soudés avec la conviction que nous sommes ici sur la volonté de Dieu. Il nous a montré, il nous a convaincus de sa volonté. Et après ça, M. Leblon a travaillé 2000 heures après les plans, qui finalement, dans un coup sec, étaient scrappés. À un moment donné, les difficultés étaient tellement aiguës que nous avons décidé qu'il y avait une seule chose à faire, c'est de vraiment crier au Seigneur. Et tous les samedis matins, de 8h à midi, nous avons tenu des réunions de prière. On était constamment attirés à gauche, à droite, et je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à des perdrix. Connaissez-vous des perdrix? Les oiseaux, quand vous les voyez dans la nature, on dirait que la perdrix est blessée. Elle traîne la patte, puis vous allez courir après elle. Et quand vous a éloigné suffisamment de son nid, elle prend le vol. C'était comme ça, on était attirés dans toutes sortes de directions dans les chemins des perdrix. Et finalement, nous avons eu les terrains, nous avons eu les permis, nous avons commencé à construire. J'allais à dans les bureaux, dans la petite chapelle, travailler là les jours. Nous avons loué, nous avons engagé un contremaître de Sherbrooke qui a supervisé les travaux. Puis finalement, les murs étaient montés. Ça prenait du temps. Mais à un moment donné, les traces sont venues. Mais les traces restaient sur le terrain pendant 15 jours d'éteint. Cet homme venait jour après jour, quelquefois deux fois par jour, me dire, mais c'est gazique, ça ne marche pas. On a pris les plans, on a regardé les plans, on a mesuré tout, puis c'était tout selon les plans, puis il disait tout le temps, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Finalement, le 23 septembre, il y avait 14 frères. Ils ont loué une grue, puis ils sont venus ici, on dit, on va mettre les traces. Puis ils posaient, comment ça, ici? 1, 2, 3, 4, 5. Puis savez-vous quoi, ils m'ont dit, monsieur Gazi, on ne veut pas vous voir sur les chantiers. Je travaillais à la maison, j'avais bien la peine. J'ai pensé à ces hommes qui travaillaient ici, qui ne voulaient pas que j'aille voir qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle encore aujourd'hui, dans l'après-midi, il y avait des frères Jocelyn et René Baudier qui s'en viennent avec une petite Volkswagen. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. En les voyant, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Je demandais tout simplement, y a-t-il quelqu'un blessé? Ils ont dit oui. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un tué? Ils ont dit non. Et pendant que les derniers traces étaient en train de monter ou de l'attacher ou je ne sais pas quoi, tout un coup, toute la bâtisse commençait à tomber, puis c'était comme un jeu de cartes. Tout tombait à terre. Il y avait deux personnes qui étaient en avant devant le mur, puis un de ces deux hommes était sourd, n'entendait pas. Tout un coup, il lève les yeux, puis il voit les bâtiments qui tombent direct sur lui. Il avait juste à se détendre et sauter à côté quand ça tombait à terre, pareil comme un tonnerre. J'arrive ici, tout à terre. Puis il y avait du monde. Il y avait la télévision, il y avait les journaux. L'ambulance était déjà partie avec Gervais et Jean-Louis. Puis là, tout le monde regardait, les gens convertis, on sentait dans la foule que quand j'arrivais, ils disaient, c'est lui le pasteur, c'est lui le pasteur. Tout le monde voulait savoir, là, tout le monde, tous les yeux étaient fixés sur moi. Ils voulaient que je fasse, moi j'avais envie de pleurer. Puis les gens se demandaient, même des chrétiens, c'est fini maintenant. Puis il y avait un shed là en arrière. Je dis, oh, frère, venez, on s'en va dans le shed. Nous avons fait un cercle, on a pleuré. Mais ces jours-là, le 23 septembre 1978, dans cette chaîne dehors, on a promis au Seigneur de relever la chapelle tombée. Ça nous a coûté 30 000 dollars de plus de matériaux perdus ou volés. Parce qu'après cet accident, on dirait que tout le voisinage et toute la ville a trouvé que c'était la propriété publique. Ils venaient avec des trailers chercher des affaires. Mais par la grâce du Seigneur, la chapelle était levée. Elle est debout aujourd'hui. Mais avant que cette chapelle était finie, nous avons commencé des réunions, puis un dimanche matin, nous étions ici. Et au milieu du culte, la bâtisse s'est secouée. Une explosion. On a essayé de garder calme, puis les gens sont sortis. Je descendais par la porte ici en bas, puis je voyais les mêmes gars qui étaient blessés. Jean-Louis de sortir de la salle électrique, je voyais ses manoirs, puis je voyais Jean-Louis me faire ça, si comme ça, essuyer sa main. Puis en essuyant sa main, sa peau est sortie pareil comme un gant. Son visage brûlait, sa main brûlait. Un petit peu plus tard, un samedi, on avait ici un mariage et un film le soir. Et de vendredi à samedi, avant que nous montrions ce film et avant le mariage, on était chez nous, il y avait un gros tonnerre, un gros orage. Mais il y avait quelques frères, cette nuit-là, qui ont décidé de rester ici dans la chapelle pour prier, pour que Dieu opère un miracle dans le cœur des hommes et des femmes pendant que nous allons montrer le film. à 3 heures du matin. Chez nous et ici, ne me demandez pas d'expliquer ça, sinon par le pouvoir de l'adversaire. Chez nous, il y avait l'électricité qui a sauté, il y avait des prises qui ont arrêté de fonctionner. Mais ici, c'était pire. Ici, la foudre a frappé la chapelle. Il y a un transformeur qui est en bas dans la cave, ça a commencé le feu. Mais il y avait des frères qui priaient ici, qui étaient présents. Quand la foudre a frappé la chapelle, quand le feu a commencé, ils appelaient les pompiers. Ils sont venus arrêter les feux. Le samedi matin, on a appelé notre électricien qui était converti pendant la première construction. Il est venu, il a travaillé la journée, il nous a connectés après des voisins quelque part pour avoir la lumière. Mais samedi soir, quand nous avons montré les films, j'étais dans mon bureau, je ne pouvais pas croire mes oreilles. Ça rentrait pareil comme les gens qui rentrent dans le cinéma. Quand finalement je suis venu ici, c'était plein du monde. Pas des chrétiens, des inconvertis. Le Seigneur continue à travailler comme ça. Je devrais vous parler de l'écologie. Ça, en soi, aussi est une histoire merveilleuse. Un rêve qui est devenu réalité. Le Seigneur a opéré et il opère encore des miracles. J'ai parlé aujourd'hui à un frère qui m'a dit: il est fort évident que l'adversaire ne veut pas que nous ayons une école théologique. Je dis oui, c'est très évident qu'il ne veut pas que nous ayons une école théologique. Mais je suis décidé de ne pas donner la raison à l'adversaire. Parce que le Seigneur Jésus est vivant. Nous avons chanté. Et il est vainqueur. Et il peut permettre que nous traversions des obstacles et des difficultés. Mais la victoire nous est assurée. Et la preuve de sa grâce et de sa victoire, c'est vous autres. C'est vous et moi. C'est ce qu'il a opéré dans nos vies. C'est le plus grand miracle que Jésus-Christ a jamais opéré dans le monde. Je remercie le Seigneur pour les privilèges et pour la grâce qui m'a conduit, ma famille et moi, dans la ville de Québec et qui m'a permis, pendant ces 10 ans et demi passés, de travailler dans cette ville et de voir des âmes sauvées et de pouvoir lire aujourd'hui Ésaïe 58, 11 et 12 et dire: le Seigneur a été fidèle, il a répondu et a accompli sa promesse. J'aimerais juste ajouter ceci. Je connais le Seigneur Jésus et j'ai vu sa main à l'œuvre. Je suis convaincu d'une chose, que la grâce de Jésus-Christ n'est pas à son terme. Elle n'est pas épuisée. Et croyez-vous? Je sais que le Seigneur Jésus a encore des âmes dans la ville de Québec. Que le Seigneur Jésus a encore une œuvre à faire pour nous. Pour vous, pour moi. Ce n'est pas moi qui travaille. Nous sommes une équipe. Vous rappelez-vous, je vous ai déjà dit maintes et maintes fois. Nous sommes une équipe. Tout ce que nous sommes juste des coachs. N'est-ce pas, Thierry? Nous sommes des coachs. Vous êtes des joueurs. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Et comme Moody a dit, le monde a encore à voir ce que Dieu peut faire par un homme qui est entièrement donné à Jésus-Christ. Moody a dit, par la grâce de Dieu, je vais être cet homme. Voulez-vous dire ce soir comme lui, par la grâce de Dieu, moi aussi, je vais être cet homme ou cette femme? Prions. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes stupéfaits devant ta majesté, devant ta grandeur, devant ta bonté à notre égard. Nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons à tes pieds. Et nous ne saurons que te louer, que te remercier pour ta bonté et ta fidélité à notre égard. Oui, nous pouvons dire avec ce psalmiste, tu as fait des grandes choses pour nous. L'Éternel a fait des grandes choses pour eux. Nous sommes dans la joie. Oui, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Merci, nous te louons, nous t'adorons. Et ce soir, Seigneur Jésus, en regardant en arrière et en considérant les choses que tu as accomplies, nous ne pouvons que nous offrir à toi, nous donner à toi sans réserve, pour que tu nous emploies, Seigneur Jésus, selon ta volonté, à ta propre gloire et à ton honneur à toi. Oui, Seigneur, me voici, prends-moi. Je m'offre, je me donne à toi. Nous nous donnons à toi ensemble. Pour le progrès de l'Évangile et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.